Pour parler d'évangélisation du libre auprès du grand public, on aurait pu prendre nos usual suspects, ceux avec qui nous faisons les 400 coups, que cela soit l'association Tout Libre ou l'association Combustible. Mais il nous semblait intéressant de prendre quelqu'un qui ne soit pas sur Toulouse et qui a un tout autre écho aussi bien dans la communauté des constructeurs du web qu'au niveau national sur le sujet. Delphine a une démarche assez étonnante, elle progresse lentement vers le libre, à son rythme, et elle accompagne d'autres personnes sur la même voie qu'elle, au fur et à mesure qu'elle en trace cette voie. Nous avons donc le plaisir de recevoir Delphine Malassaigne, responsable qualité web chez Equinoo, ex dans l'organisation de Paris Web, professeur en qualité web pour OPcast, et capable de rater la pâte à crêpes. CPU carré petit utile. Delphine, bonjour.
Bonjour.
La conférence que tu as présentée lors du Capitole du Libre, pour lequel tu es venu à Toulouse, enfin à plusieurs, hein, si je me trompe, mais la conférence qui a motivé cette interview, le titre et l'intérêt du Libre, expliqué le dimanche midi en famille. Tu joues sur le côté familial ou l'astuce pour détourner l'attention des questions très gênantes ?
Non, pas vraiment. En fait, j'ai choisi de faire ça... avec le côté familial, simplement pour dire comment je voudrais pouvoir expliquer l'intérêt du libre à des gens qui s'en fichent et à des gens qui n'y connaissent rien. Et pourtant, c'est ces gens-là, je pense, qu'il faut qu'on arrive à convaincre de l'importance qu'il y a derrière tous les enjeux du libre.
En soi, en venant en plus le faire au Capitole du Libre, c'est un petit peu le terrain conquis, tu appréhendes un petit peu le public ou tu te dis peut-être que je vais avoir plus de mal que ça finalement à l'expliquer.
J'appréhende complètement le public puisqu'en fait je m'adresse à des gens qui en savent plus que moi sur le sujet, qui connaissent beaucoup plus les subtilités, mais mon but aussi c'est d'atteindre les personnes qui vont venir au Capitole du Libre, non pas en étant les experts, mais en justement qui veulent venir se renseigner. Pour les experts, il y a aussi le fait que des fois, on connaît tellement bien un sujet, et surtout dans l'informatique, on a du mal des fois à vulgariser et à expliquer à ses propres parents. Mon idée, c'est que en étant à la fois moi baignée dans une communauté proche du libre et en même temps pas encore complètement au courant de tout, je suis une bonne interface pour aider à vulgariser et faire le pont entre les experts et les gens qui ont envie de savoir.
Avant ça, on va reparler un petit peu de ton histoire informatique. Quel a été ton premier ordinateur ou ton premier contact avec un ordinateur ?
Petite, j'avais 8 ans peut-être, avec ma sœur, on voulait un ordinateur, je n'ai aucune idée de pourquoi. Certainement qu'on confondait ordinateur et console de jeu et qu'on voulait jouer comme mon cousin. Et un jour, mon père nous a ramené un Amstrad PC 1512 avec un livre qui faisait à peu près 12 cm d'épaisseur et il nous a dit bah, « faut lire le livre ». Bien évidemment, on n'a jamais lu le livre et on a joué aux 4 jeux qu'il y avait sur l'ordinateur préinstallé.
Et c'était pas une machine qui était facile, c'était un PC, hein. C'était pas l'ordi 8 bits qui était ultra populaire à l'époque. Donc déjà c'était un certain investissement et tout ça. Donc ça veut dire que t'étais très vite en plus dans le monde MS-DOS. Professionnellement par la suite t'es resté dans le monde Windows, tu es allé vers le Mac.
Non, alors je suis allée vers le Mac quand j'ai fait mon année de formation. Sinon je vais sur l'ordinateur qu'on me donne. Qu'on me fournit. Et comme c'est pas moi en plus qui gère l'ordinateur, en cas de problème, je prends ce qu'on me donne et j'ai pas de préférence. Enfin, ma préférence, c'est de passer de l'un à l'autre pour pouvoir connaître un peu tout.
Ça, forcément. Autant avoir une culture générale. Ça aide en même temps, justement, dans ton métier, de connaître les différentes plateformes.
Bah, sur mon métier, non, peu. Ce qui m'aide, c'est de connaître les outils. Souvent, les outils, s'ils sont spécifiques à une plateforme, ça ne me change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que je sache les outils avec lesquels on travaille. Mais mon outil à moi étant surtout le web, mon objectif étant surtout le web, la machine depuis laquelle on travaille est peu intéressante pour moi par rapport à mon travail.
Et comment tu en es venu, en fait, au logiciel libre ? Quelles ont été les premières fois que tu en as entendu parler et comment tu en es venu à en installer un ?
Alors j'évolue dans une chouette communauté qui du coup me, me tient au courant des sujets importants. C'est fortement grâce à Paris Web que j'ai pu m'approcher du logiciel libre ou de l'hygiène numérique de manière générale. Je me rappelle très bien, il y a plusieurs années, avoir vu des conférences qui m'ont interpellée, dont la tienne d'ailleurs. Et je me suis dit, justement, déjà à l'époque, je me disais, mais c'est nous qui travaillons dans le web qui devons être au courant de ces choses-là, qui devons être sensibilisés et qui devons le transmettre ensuite aux gens dont ce n'est pas, dont c'est pas le métier.
Et donc, ça a été un contact d'abord par des logiciels ou directement par un système libre, genre Linux ?
Non, alors plutôt par des logiciels et plutôt... plutôt dans l'idée... En fait, je ne suis pas venue au logiciel libre, je suis venue à l'idée d'améliorer mon hygiène numérique en général. Le logiciel libre n'est entre guillemets qu'un outil pour moi pour cet objectif.
J'aime bien cette expression hygiène numérique. Je crois d'ailleurs savoir que son auteur sera là, puisque c'est Genma, si je me trompe. Quand tu as dû te lancer dessus, ce fut comment ? C'était désarçonnant, se retrouver face à la ligne de commande et tout ça, ou heureusement tu étais bien accompagné et ça s'est très bien passé quand tu es passé sous Linux ?
Je ne suis pas passé sous Linux.
Quoi ? Mais quelle honte ! Mais tu te rends compte où tu vas faire ta conf ? Donc ça veut dire que pour l'instant, toi, tu restes justement purement sur en fait, des logiciels que tu installes en fait sur les systèmes propriétaires, mais dont les logiciels que tu utilises sont moins privateurs.
Oui, en fait, ma prise de conscience date d'il y a longtemps, mais ma mise en action, on va dire, ne date que d'il y a très peu de temps, moins d'un an. Et du coup, mon idée, c'est vraiment d'avancer pas à pas. En ce sens, j'avais fait une conférence à Paris Web d'un quart d'heure où je disais aux gens... L'idée, justement, c'est pas de tout de suite passer à Linux et à je ne sais quoi et à passer à la ligne de commande, parce que du coup, on n'y va pas forcément. Moi, j'y serais pas allée s'il y avait de ça. Mais l'idée, c'est plus de faire le pas qu'on est capable de faire au moment où on est capable de le faire. Et donc là, par exemple, le pas que j'ai fait récemment a été, j'aurais dû le faire depuis longtemps, bien sûr, a été de passer à LibreOffice. Je restais sur des vieilles idées comme quoi LibreOffice était complètement à la ramasse et j'imaginais un logiciel avec lequel j'allais galérer alors que je suis habituée à des logiciels très fluides. Et en fait, je suis passée à LibreOffice, j'ai envie de dire, sans douleur et sans même m'en rendre compte, quoi. Il y a peut-être des boutons qui ne sont pas placés au même endroit, mais voilà.
C'est une thématique dont on va bientôt parler justement dans CPU. C'est à propos du design des applicatifs. Et c'est vrai que LibreOffice semble très en retard par rapport à la suite Microsoft Office, qui a eu une très belle mise à jour il y a 5-6 ans déjà avec les rubans. Qu'il y ait une interface un peu moins travaillée, ça ne gêne pas l'appétence ? Je suis obligé d'utiliser ce genre de terme, tu sais. Tu es plus habitué que moi aux agences de pub parisiennes. Donc est-ce que toi, justement, tu penses que le design peut aussi être une limite pour passer au logiciel libre ?
Oui, je pense que ça peut être une limite. Et je sais que dans mon cas, moi, c'en est une. Alors, ça ne m'a pas gêné sur LibreOffice, mais comme je disais, je m'attendais à quelque chose de très vieillot et du coup, j'imagine que j'ai été surprise plutôt dans le bon sens. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on essaye de convaincre quelqu'un de passer d'un logiciel à l'autre, s'il a l'impression que... s'il est peu convaincu par tous les avantages qu'on lui avance, qu'il regarde les deux logiciels et qu'il y en a un qui est moche, il va rester sur celui auquel il est habitué, qui est joli. Moi, je pense aussi que j'ai été amenée au LibreOffice ou à d'autres logiciels libres parce que j'ai été convaincue de la démarche et de l'intérêt. Et du coup, je suis un peu plus encline à avoir un design moins sexy. Maintenant, ça reste quelque chose qui joue énormément pour la prise en main et qui, moi, je ne dis pas que ça compte beaucoup, mais ça compte dans la balance.
Est-ce que c'est un passage que tu as fait uniquement à titre personnel ou tu as aussi basculé au niveau professionnel ?
Non, au niveau professionnel, je n'ai pas tout à fait le choix de mes outils.
D'accord. Donc tu n'as pas encore déjà essayé d'envoyer des documents Word et Excel, d'ouvrir les documents Word et Excel de tes collègues et leur renvoyer des documents avec LibreOffice ?
Non, pas du tout.
Ça, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, même si, a priori, ils ont standardisé les formats de documents.
Alors, c'est pas forcément compliqué, parce que travaillant dans une agence web, je connais pas la proportion de mes collègues qui, eux-mêmes, utilisent, à titre personnel, du logiciel libre. Donc, il y aurait pas forcément un problème derrière ça. Simplement, je le fais pas et ça me viendrait pas à l'idée de le faire, parce que dans le cadre de mon travail, on a des outils qui nous sont fournis. Et de manière assez logique, on est censé travailler avec ces outils. Et d'ailleurs, moi, en tant que responsable qualité, je pousse pour que les gens utilisent les outils, qu'on soit tous sur les mêmes. Donc ça, pour moi, ça n'aurait pas de sens que de ne pas utiliser les outils qui me sont fournis.
Et est-ce que, justement, tu as déjà eu des fois des envies de te dire « Ah, il me manque telle fonction » ou « Ah, finalement, je suis bien content qu'il y ait cette fonction » que je ne retrouve pas dans ce qui est censé être l'équivalent en logiciel libre. Une différence de fonctionnalité entre les deux qui soit t'arrange, soit est handicapante.
Je pense que oui. Là, je n'ai pas d'exemple en tête en particulier. Ne serait-ce que si, alors peut-être sur les tableurs par exemple, je suis très habituée à des tableurs propriétaires. Là, donc sur LibreOffice, j'ai fait que des petites. Que des petites feuilles de calcul. J'ai fait des petites interventions. J'ai déjà vu une limite qui m'a gênée. Si maintenant que j'y pense, j'ai vu une limite qui m'a gênée qui a fait que je n'allais pas utiliser pour un fichier en particulier. Je ne vais pas utiliser LibreOffice parce qu'il me manque la fonction dont j'ai besoin.
Est-ce que ça t'a intéressé de faire remonter cette limite sur les forums d'utilisateurs, voire sur les forums justement des associations qui sont derrière, qui développent pour LibreOffice, donc, puisqu'il y a même une entreprise qui est derrière?
Alors j'ai envie de te répondre oui, bien évidemment, parce que c'est même tout l'intérêt, c'est un des intérêts du libre. Dans la pratique, je crois que sur le moment, ça ne m'est même pas venu à l'idée, et je me sens un peu bête de ne pas y avoir pensé. Je pense que ça va être ma prochaine. Une de mes prochaines étapes, oui, c'est de commencer à faire des actions à mon niveau, à moi, et donc à rentrer dedans par ce genre de biais.
Et vous écoutez CPU, l'émission Garé Petit Utile, et nous sommes avec Delphine Malassaigne, responsable qualité web chez Equino et surtout donc conférencière sur comment discuter du libre en famille. Je parlais justement du retour vis-à-vis donc de la communauté, puisque en fait participer au logiciel libre, c'est pas uniquement développer, c'est aussi écrire de la documentation, la traduire, faire participer, faire du design ou en parler, ce que tu vas faire donc justement au Capitole du Libre, et remonter les bugs. En soit, c'est une progression à chaque fois, c'est chacun est à son niveau s'il veut contribuer.
Ah oui, 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 c'est une des choses dont je suis... Enfin, c'est même pas que je suis convaincue, c'est que je le vois... Et c'est ce qu'il faut, enfin, pardon, il faut réussir à convaincre les gens qui ne sont pas des techniciens de cet état, c'est-à-dire que n'importe qui peut apporter sa pierre à son niveau. Et notamment, j'ai découvert, je crois que c'est sur Framacolibri, qu'on peut voir une liste de tâches classées, ou en tout cas qu'on peut filtrer selon des compétences, mais ce n'est pas des compétences techniques. Je crois me rappeler qu'il y a une tâche qui est vous êtes plutôt bon pour résumer des choses, ou vous êtes plutôt bon, vous avez un bon esprit de synthèse. Cette tâche-là vous intéresse, enfin, cette tâche-là vous concerne.
Donc, on parle quand même l'une des galaxies des sites qui ont été montés par l'association Framasoft. Justement, à propos de la communauté, est-ce qu'elle est facile à les contacter ou il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que quelqu'un du grand public puisse dialoguer avec elle?
Déjà, je pense que il va falloir qu'on fasse des efforts pour que le grand public sache qu'elle existe et qu'on peut dialoguer avec elle. Parce que je pense que ça, déjà, c'est pas encore forcément su. Après, les gens qui s'intéressent un peu le savent rapidement. Moi, je suis très... Parce que je suis exactement dans la situation, je suis plus dans la situation des gens qui vont essayer de participer à cette communauté que déjà dans la communauté. Et donc ça fait partie de mes prochaines étapes. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'un premier contact, de rencontrer les gens. En ça, je sais qu'il y a plein d'événements auxquels je vais pouvoir participer. Et puis, je pense que la réponse à ta question, elle est inégale selon les communautés. Il n'y a pas la communauté. Je crois savoir qu'il y a des communautés dans lesquelles c'est très difficile de rentrer parce qu'il y a simplement un problème de dialogue, de vocabulaire, c'est pas la même culture et c'est deux cultures qui se comprennent pas, qui essayent de dialoguer. Et je pense qu'il y a d'autres communautés ou simplement d'autres personnes faisant partie de une ou plusieurs communautés qui savent complètement s'adresser aux deux publics.
Et tu penses que la mascotte, c'est un gros avantage par rapport à une fenêtre ou à une pomme ?
Le trombone ?
Qu'importe.
En soi, non. Après, si on parle d'ergonomie, d'expérience utilisateur, oui, ça a une importance. Après, quelle forme ça prendra, je ne suis pas sûre que ça prenne la forme d'un trombone. Mais oui, je pense que c'est une énorme porte d'entrée si on arrive à justement améliorer l'expérience utilisateur grand public.
Quand tu essaies de convaincre des gens d'y intéresser et tout, quel est l'argument qui reste ? C'est le fait que ça soit gratuit ou c'est le fait que ça ne soit pas américain ou le fait qu'il n'y a pas de virus dessus ?
J'en suis encore à mes tout débuts pour essayer de convaincre. Pour tout te dire, je voulais tester cette conférence, vraiment la conférence elle-même, pas la discussion en famille. J'ai tout simplement pas eu le temps.
Il y a eu d'autres sujets ? Les blagues du tonton, ce genre de choses ?
Non, il n'y a pas eu d'autres sujets. Il y a juste mon beau-frère qui, il y a déjà 2 ans, m'a dit « Oh là là, Google, ça n'a pas l'air bien. J'ai abandonné mon adresse Gmail, j'ai changé. » Et j'étais assez fière de lui. Je lui ai offert au Noël suivant le livre de Tristan Nitto, Surveillance. Et donc, je vais voir là ce que ça va donner. Je vais en discuter avec lui pour voir un peu où il en est et voir justement quels sont les arguments qui l'ont marqué. Moi, je sais que pour ma part, l'argument le plus fort a été celui plutôt de l'éthique, on va dire, de tout ce qui est autour de l'éthique, plus que le prix ou je ne sais plus quel autre.
Justement, l'argument des gens qui sont imperméables, notamment, mais pourquoi prendrais-je LibreOffice alors que Word, c'est gratuit, il suffit que je pirate un numéro de série.
Et donc, quel est l'argument que je leur...
Je veux dire, quand on t'oppose cet argument, justement, négatif, en disant, moi, les logiciels, je les pirate comme je veux, c'est gratuit aussi.
Alors, en fonction d'où on en est dans la conversation, il est possible que simplement j'en reste là. En gros, si j'ai fait entendre mes arguments et que la personne reste réfractaire, je ne considère pas que c'est un échec. Je sais que j'ai déposé une graine qui prendra un moment ou un autre. Et cette personne-là, je pense que je l'ai été précédemment, pas forcément en disant oh, « bah, il suffit que je pirate », mais avec d'autres arguments, je ne vois pas pourquoi je changerais. Et finalement... quelques temps plus tard, c'est moi qui suis là à dire « mais si, je vais changer, et si, regardez les gens, il faut changer ». Donc mon but, c'est pas tant de réussir à argumenter dans un débat jusqu'à ce que les gens finissent par dire « c'est toi qui as raison ». Mon but, c'est de déposer les arguments dans les têtes, et puis chacun fait son chemin au moment où il est prêt, où c'est possible, où, voilà quoi. Moi, mon propre chemin, je l'ai commencé à peine, il est loin d'être fini, et il y a des choses toutes bêtes où je suis déjà convaincue, mais juste passer X temps à récupérer des données chez Evernote pour les transposer ailleurs, c'est quelque chose que je fais une fois de temps en temps, j'y passe pas mon week-end.
Evernote, donc c'est un service en SaaS en plus hein, pour de la prise de notes, si je me trompe. Du coup, tu es en train justement d'essayer de le quitter ?
Oui, je l'ai quitté dans un sens parce que je n'ajoute plus de contenu dedans, mais je veux récupérer tous mes contenus. J'ai pas trouvé de fonction d'export, import qui convenait avec mon nouvel outil. Et du coup, de temps en temps, c'est une bonne occasion de faire du ménage aussi. C'est un peu comme un déménagement, quoi. Il y a beaucoup d'affaires dans un déménagement. Je dis, bah, tiens, ça, je le garde depuis 5 ans, mais en fait, je vais m'en débarrasser. Bon, là, je fais aussi un petit peu de ménage, mais j'ai tout mon temps pour le faire. En tout cas, je prends tout mon temps pour le faire.
En fait, la migration, c'est justement le bon moment en soi pour refaire du tri dans ses idées et pour voir ce que l'on a, ce qu'on laisse comme information finalement à des services propriétaires.
Ça peut être complètement l'occasion effectivement de se rendre compte de ce qu'on a laissé. Ça peut être l'occasion simplement de faire un tri dans les données dont on n'a plus besoin. Et puis, l'air de rien, je pense qu'aussi, là on en enfin, on n'en parle pas trop, moi j'en entends pas trop parler autour de moi, mais la quantité de données numériques qu'une génération comme la nôtre peut garder sous prétexte que ça ne prend pas de place, alors qu'en fait ça pose quand même des problèmes, je pense que là, j'y viendrai aussi à cette question-là, mais bon, chaque chose en son temps.
Bah justement, parlons-en des problèmes. On a le temps, ce sera diffusé après ta conférence. C'est peut-être l'occasion de répéter ce que tu as dans ta tête.
De parler des problèmes liés au logiciel libre ?
Au volume que l'on stocke à gauche à droite.
Ok. Alors ça, c'est pas du tout un point que je vais aborder dans ma conférence. Si ce n'est, je vais évoquer les données. Où est-ce qu'on les laisse ? À qui on les laisse ? Est-ce qu'on se rend compte de qui peut y accéder ? Sans parler de sécurité, simplement les autorisations qu'on a données en cochant une case devant un texte qu'on n'a pas lu. Donc oui, il y a tout cet aspect de volume de données, mais surtout de criticité des données et surtout le fait de se rendre compte. Je voudrais essayer de que les gens se rendent compte que des données qu'ils ont l'impression dont ils ont l'impression qu'elles ne sont pas critiques, en réalité, le sont. Et c'est tout l'enjeu du « je n'ai rien à cacher » et de faire comprendre que si des données personnelles sont des données privées, et il y a des raisons pour lesquelles il faut les cacher, ou en tout cas savoir à qui on les montre.
Toi, la thématique sur laquelle tu l'abordes, du logiciel libre, c'est pas sur la gratuité, c'est pas forcément sur la sécurité ou participer à une communauté, c'est plus effectivement sur l'hygiène numérique. Pour toi, c'est complètement indissocié. Il n'y a pas d'hygiène numérique possible dans un logiciel dont on ne peut connaître la recette.
Si, c'est tout à fait possible, mais pour répondre dans l'ordre, oui, moi, j'aborde le logiciel libre par cet aspect-là parce que c'est l'aspect qui, moi, m'a convaincue. Ensuite, dans ma conférence, je vais aborder d'autres points de vue qui sont plutôt de l'ordre purement pratique. Moi, c'est vrai que c'est, comme je disais, c'est l'argument qui m'a le plus séduite, qui m'a en tout cas le plus donné envie de faire les efforts. Maintenant, il y a des... Le logiciel propriétaire ne veut pas forcément dire que c'est le mal absolu, et le libre ne veut pas forcément dire que c'est le bien absolu. Mais je me rends bien compte que là, parce que je suis en train de faire cette transition, j'ai une vision encore assez simpliste peut-être, en tout cas assez idéal du monde du logiciel libre. Et je vais certainement amener beaucoup de subtilité dans ma vision des choses au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Mais pour l'instant, ça me dérange pas. Je suis en train de faire la transition. Je reste convaincue que de toute façon, c'est ce vers quoi je veux aller. Donc je vais avoir le temps de voir les aspects parce que tout n'est pas tout rose.
Et toi-même, tu t'es fixé un objectif au moment où tu vas basculer, ou pour l'instant c'est non, qui va piano va sano?
Mon objectif, c'est fais ce que tu peux quand tu peux. Voilà. Mon objectif, c'est chaque pas compte, chaque petit pas compte, et voilà. J'ai le sentiment, maintenant que j'y suis, j'ai le sentiment que j'aurais pu faire ça depuis des années. Mais peu importe, le fait est que au moins là, je le fais. Et puis bah, tous les jours, je fais, tous les jours ou pas d'ailleurs, je fais un petit pas de plus pour m'approcher de l'hygiène numérique. Et en choisissant mieux un outil, en déplaçant un fichier, etc.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Delphine Malassaigne et nous sommes donc en train de parler du long chemin vers Il est libre, Max. Puisque tu viens au Capitole du Libre, c'est pas la première conférence d'ailleurs que tu fais sur le sujet, tu en avais déjà présenté d'autres, si je me trompe, plus ou moins, sur le logiciel libre. Non, pas encore.
Sur l'hygiène numérique.
Sur l'hygiène numérique, d'accord, ok. Encore un mauvais point pour moi. Est-ce que du coup, puisque tu disais que justement tu te dis bah, finalement tout n'est pas si bien, etc., tu es en train de lever en toi des points critiques, des points qui t'embêtent ou des points qui semblent bloquer en fait la pédagogie du libre?
Oui, on a déjà un petit peu évoqué l'ergonomie, enfin voilà l'apparence globale. Je pense aussi qu'il y a un gros point, il faut que le logiciel libre aille rencontrer les utilisateurs. À mon avis, c'est en train de se faire. Bien évidemment, ce sont des choses qui sont très très lentes. Et puis, les seuls aspects négatifs que j'en retiendrai, c'est que j'aimerais tellement moi être sûre que je suis capable d'expliquer, être sûre que je suis capable de convaincre et que je suis capable de pas de simplifier mais d'expliquer les choses simplement. Et voilà, je voudrais surtout arriver à ça.
C'est ça qui est amusant quand même, c'est que tu as eu organisé des paris web, tu as fait des conférences, tu es formatrice et tu es en train de dire qu'en fait ce qu'il te manque c'est apprendre à faire passer la connaissance. C'est un problème, en fait, de trouver les éléments pédagogiques, en fait, actuellement, qui coincent.
Oui, mais en fait, je crois que c'est pas du tout propre au logiciel libre. Bien évidemment, il y a des choses qui vont peut-être freiner l'adoption et il y a des choses qui vont au contraire encourager l'adoption. Mais on parle quand même de, pour employer un grand mot, de conduite du changement. Et alors la conduite du changement chez mes parents, mon beau-frère, mon oncle, mon voisin, qui ont utilisé des logiciels et qui savent s'en servir, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Pourquoi est-ce que je viendrais les enquiquiner le dimanche là-dessus alors qu'en fait, ils ont à s'occuper de leur rhododendron. Enfin, voilà. Donc, je pense que la plus grosse difficulté, elle est là. Tu l'as dit plusieurs fois. Pourquoi je changerais? Et voilà, aller expliquer bah, pourquoi si c'est important. Et c'est peut-être pour ça que moi, l'argument qui a marché, c'est l'argument éthique. Parce que voilà, pourquoi je changerais? Bah, parce que c'est important.
Et est-ce que le maillage des LUG, des Linux User Group, donc des associations d'utilisateurs de Linux, actuellement, il est assez suffisant ou bien il manque de communication pour se faire connaître? Est-ce que justement, il manquerait pas, je ne sais pas, fédération au niveau national, un travail fait par Framasoft pour rediriger au niveau local, ce genre de choses?
En tout cas, je pense que ce dont il manque, c'est tout simplement d'une image, c'est idiot à dire, hein, mais d'une image qui ne soit pas l'image de Linux. Les gens vont tout de suite prendre peur, s'imaginer que ce n'est pas pour eux. C'est en ça que je trouve que Framasoft, par exemple, fait un boulot génial. C'est que du coup, avec Framasoft, on n'est pas dans un environnement, on n'a pas l'impression d'être dans un environnement de geek acharné, qu'on ne comprend pas, qu'on a des lubies bizarroïdes. On est dans quelque chose, et c'est leur but, et ils réussissent très bien. On est dans quelque chose de pédagogique, d'informatif. C'est aussi le cas avec les cafés vie privée. J'ai assisté à un café vie privée. C'est formidable, c'est exactement ça, je pense, dont on a besoin. C'est quelqu'un qui est là en face de nous, qui nous explique, qui répond à nos questions et qui sait vulgariser les choses.
En soit, ça reste un immense boulot pour nous-mêmes, pour nous, ceux qui connaissent les choses, de savoir simplifier les choses, à les rendre complètement transparentes pour simplifier en fait la pédagogie.
Bah, je pense qu'il y a le fait de simplifier et puis il y a peut-être un truc qui est un peu difficile à faire, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire au moment où on est en train d'essayer d'expliquer et de convaincre, je pense qu'il y a des notions qui sont hyper importantes, qu'on a acquises il y a déjà plusieurs années, qu'il faut accepter de ne pas transmettre dès la première fois qu'on en parle, dès qu'on est en train de convaincre les gens. Il faut accepter de... Bah peut-être, oui, de simplifier un peu les choses, mais dans le sens de passer sous silence des aspects pour simplement laisser aux gens le temps de digérer la première couche et puis revenir le dimanche suivant, faire la couche suivante, etc.
Est-ce que pour rendre Linux, dans ce cas-là, plus human-friendly, il faudrait offrir un rasoir à Richard Stallman pour qu'il fasse un peu moins barbu intégriste?
Non, il faudrait changer entièrement la société pour qu'elle arrête de juger les gens sur leur barbe.
Est-ce que le fait que les logiciels libres ne sont pas proposés dans les ordinateurs tels qu'on peut les acheter, donc à la Fnac, Darty, JTEM, etc., c'est pas aussi un frein de le fait que justement ces logiciels ne sont pas disponibles sur les ordinateurs à la base? Donc peut-être qu'il y a une raison, se dit le public.
C'est complètement un frein et justement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le pourquoi je changerais, puisque c'est déjà installé, pourquoi j'irais m'embêter. Donc oui, c'est, non seulement c'est un frein, mais en plus c'est un gros problème d'un point de vue comment dire, j'allais encore dire d'un point de vue éthique, c'est un gros problème. On devrait avoir par défaut des logiciels libres d'installer et éventuellement, si on veut faire le choix du propriétaire, aller chercher du propriétaire. Et c'est encore plus vrai dans tout ce qui est public, donc les administrations, les écoles.
Delphine, tu es une femme connectée, tout comme moi, tout comme 50% du trafic sur Internet, ben, tu le fais aussi sur téléphone portable. Mais il n'y a pas d'alternative libre par défaut sur les téléphones portables et en installer une est extrêmement compliqué. Donc est-ce que finalement la bataille du logiciel libre, elle est cantonnée à l'ordinateur et elle va mourir ?
Mais pas du tout, pas du tout. Elle ne fait que commencer et voilà, et on va avancer. Je suis persuadée que de toute façon on avance vers ça au fur et à mesure et que les différents acteurs, que ce soit des acteurs importants ou des gens, au contraire, à leur petit niveau, vont chacun apporter leur pierre et que bientôt, une interview comme celle-ci aura absolument aucun intérêt parce que de toute façon, ce sera devenu une évidence pour tout le monde et peut-être qu'il y aura des conférences pour expliquer mais c'est quoi le logiciel propriétaire ?
Moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'au contraire, on devra faire des interviews sur les évangélistes des logiciels propriétaires. Donc, je ne sais pas, peut-être David Catu, par exemple, pour Microsoft, on verra. Là-dessus, justement, est-ce que toi, quand tu vois la progression et tout ça, tu te dis, il y a des manques. Toi-même, est-ce que tu te dis, je dois aller au-delà des conférences et rédiger peut-être des articles, rédiger des guides ou est-ce que tu te dis non, en fait, les retours que j'ai vis-à-vis des gens que j'essaie de convaincre sont déjà suffisants pour qu'on puisse créer une base de connaissances sur comment on peut argumenter face à ça ou comment peut-on aider face à ça.
Je ne crois pas que j'ai une stratégie aussi construite que tu as l'air de l'imaginer.
Attends, un plan d'invasion du monde, ça se prépare. Hein.
Mais pas du tout, justement. Mon plan d'invasion du monde, je le fais pas à pas aussi. J'ai eu l'opportunité, enfin voilà, à un moment où j'avais envie de parler de logiciels libres, il y a eu l'appel à orateur pour le Capitole du Libre. C'était une opportunité. Des fois, j'ai envie d'exprimer un truc plutôt par un article. À ce moment-là, j'écrirai un article, mais j'y réfléchis. Je ne réfléchis pas d'avance de comment faudrait que je fasse. Ce que je sais, c'est que faire des trucs là à mon petit niveau, c'est bien, mais il y a des communautés qui ont déjà une force de frappe importante. Aller participer à ces communautés, aller sur Framacolibri faire des tâches, des choses comme ça, je pense que c'est... voilà, si je dois réfléchir stratégiquement et aussi c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, ça va être ça.
Oui, enfin, comme on disait tout à l'heure, il faut les trouver, ces communautés. Est-ce que toi-même, tu t'es dit, coller un sticker sur mon ordi, maintenant que j'ai passé peut-être une première étape, ça pourrait peut-être aider à convaincre plus de gens ?
Alors, je déteste coller des stickers sur mes ordi. Le seul que j'ai est un sticker décoratif. Je suis toujours scotchée de voir des gens coller une quantité incroyable de stickers sur leurs ordinateurs, puisque j'ai le syndrome de « Ah, mais s'ils veulent l'enlever, comment ils font ?» Voilà.
Tu tires doucement, tu sais, ça vient. Hein. Un petit coup, après, il n'y a plus de traces de colle. Hein. Ça peut repartir au SAV même.
Cela dit, les stickers, à chaque fois que j'ai l'occasion, j'en prends. Je les ramène à mon travail. J'ai des collègues qui sont férus de stickers. Et à chaque fois, t'as vu, celui-ci, c'est la quadrature. T'as vu, il est bien, hein, regarde, tu connais. Voilà, donc je me sers quand même pas mal de l'outil stickers.
Et des t-shirts. Des fois, croiser quelqu'un avec le même t-shirt que toi dans le métro.
Ça m'est jamais encore arrivé, le même t-shirt. Mais si je croise quelqu'un que je connais absolument pas avec un t-shirt de toute cette communauté-là, j'avoue, je lui fais une petite œillade.
On va rester sur ce petit clin d'œil. Donc, Delphine, merci beaucoup. Peut-être au plaisir de te revoir prochainement sur Toulouse. Actuellement, donc, forcément, professionnellement et familialement, tu es plus sur Paris. Quels sont les événements où on a plus de chances de te voir ?
Les événements parisiens, du coup. Oui. Bah, les apéros web, les framapéros. Si, quand il y en aura, pour l'instant, je ne suis encore jamais allée à un framapéro. J'ai fait mon premier quadrapéro cette semaine. Voilà. Après, au niveau des grosses conférences, bien évidemment, je ne loupe jamais Paris Web. Et puis, je ne suis pas cantonnée à Paris. Si je peux, je vais ailleurs. Je vais aller à Codeur en Seine bientôt. Et puis, bien évidemment, Sud Web, si je peux, qui est une conférence formidable aussi.
Là-dessus, je ne puis qu'abonder en ton sens. Delphine, merci pour tout.
Merci, avec plaisir.